J'ai vraiment à cœur, non seulement sur ces trois soirs, mais régulièrement, d'enseigner, je parle vraiment enseigner, la question du jeûne et de la prière. Pas seulement tenter de le pratiquer, mais réellement l'enseigner. Il faut vraiment le comprendre. Et c'est grâce à un enseignement approfondi, c'est comme toute chose sur n'importe quelle thématique, c'est grâce à un enseignement approfondi que l'on va pouvoir avoir une pratique équilibrée du jeûne et surtout une pratique efficace du jeûne. Parce que le jeûne, je m'excuse, c'est une puissance, c'est une arme spirituelle, il y a du résultat, il y a une rémunération. Et Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête, ne prends pas un air triste, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, va dans ta chambre parce que ton Père Céleste te le rendra. Et je jeûne pas par intérêt ou motivé par une ambition personnelle. Non, non, je jeûne pour Dieu, on va le voir ce soir. Mais je sais qu'excusez-moi, on jeûne et à un moment, les écluses du ciel s'ouvrent et ça tombe. Hein. Et il y a du résultat, il y a une rémunération au jeûne biblique. Donc moi, je suis très pragmatique, je veux comprendre pourquoi ça marche, je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors, on va partager quelques généralités, quelques points aussi très 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 pratiques ce soir. La première chose que j'aimerais vous dire ce soir, pour attirer votre attention, c'est que le jeûne, la pratique du jeûne, n'est pas l'exclusivité du christianisme. Le jeûne, ce n'est pas une pratique purement biblique. En réalité, si vous avez fait attention, le jeûne se trouve partout. Toutes les religions, même chez les gens athées, même dans l'athéisme, on pratique le jeûne. Toutes les religions ont leur jeûne. Les musulmans ont leur ramadan. Les catholiques ont leur carême. Les juifs, dans le judaïsme, ont aussi leur temps de jeûne, etc. C'est-à-dire que c'est en réalité toutes sortes de règles. Dans les religions, dans l'état d'esprit religieux, le jeûne est une règle, une norme imposée, obligatoire, qui revient à échéance fixe, et ce qui fait que ça en est une tradition. Même les gens athées, vous avez peut-être déjà vu ça, moi j'ai déjà vu des pubs à la télé ou ailleurs pour des séminaires où des gens qui ne croient en rien ni en personne si ce n'est en eux-mêmes jeûnent dans un but physique. Ils jeûnent dans un but thérapeutique parce que ce qu'ils cherchent, c'est la purification, le ressourcement du corps et le bien-être du corps. Pourquoi je dis ça? Pour montrer qu'en réalité, comprenons le bien, frères et sœurs, le jeûne en lui-même n'a rien d'exceptionnel. Le jeûne en lui-même n'a aucune puissance. C'est pour ça qu'il ne doit pas être rituel, traditionnaliste, religieux, superstitieux. C'est pour ça que j'ai besoin de comprendre et de retrouver la dimension spirituelle, l'enseignement biblique au sujet du jeûne. Je sais que le jeûne en lui-même n'a pas de valeur. C'est l'état d'esprit, l'attitude de cœur dans laquelle je me trouve, c'est l'état d'esprit qui va faire que le jeûne va prendre une dimension extraordinaire lorsqu'il est joint à la prière. C'est l'état d'esprit dans lequel il est pratiqué qui va faire la différence. Une disposition de cœur, la motivation, le mobile, le but est tellement important. Et pour le jeûne, comme pour tout le reste, on n'oubliera jamais que ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est le fond. D'accord ? Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Dieu regarde au cœur. C'est un principe général pour tous les domaines de la vie spirituelle, y compris sur la question du jeûne. Donc, je reste sur des choses très pratiques et peut-être ce soir, je vais beaucoup plus dire ce qu'il n'est pas. Je vous montrerai peut-être plus ce soir ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas s'attacher à la durée du jeûne ou à la forme du jeûne. Je ne m'attache pas ni à la forme ni à la durée. Jamais, au grand jamais, la Bible ne fait du jeûne une obligation. Jamais la Bible ne présente le jeûne comme une routine, une tradition. Jamais le jeûne ne revient à échéance régulière. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. Si quelqu'un ne veut pas jeûner, je dis c'est dommage, il se prive de beaucoup de rémunération, de beaucoup de bienfaits, mais il est sauvé, il ira au ciel. Le jeûne n'est pas une obligation. La Bible n'en parle jamais comme une obligation. Jamais sous forme d'impératif. Il y a des impératifs au sujet de la sanctification. Il y a des impératifs au sujet de l'attitude de cœur. Il y a des impératifs au sujet de l'amour, de ma relation avec Dieu, de nos relations les uns avec les autres. La Bible comporte une multitude d'impératifs. Elle ne nous laisse pas le choix sur certains sujets. Mais au sujet du jeûne, la Bible ne le présente pas avec EZ. Jeûnez, faites ceci, faites cela. Non. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça c'est pas négociable. Mais jeûner n'est pas présenté comme un impératif. La Bible en parle plutôt, en considérant les différents textes, la Bible parle plutôt du jeûne comme quelque chose de logique. C'est du bon sens. La Bible en parle comme quelque chose qui effectivement va être régulier, non pas traditionnaliste, non pas à échéance fixe, mais on voit que le jeûne est une discipline régulière, de bon sens, aussi logique que de prier, aussi logique que de méditer la parole de Dieu, aussi logique que d'aimer, aussi logique que ce que vous voulez. Jésus n'a pas dit « si vous jeûnez », Jésus a dit « lorsque vous jeûnez ». Quand tu jeûnes, pareil que pour la prière, Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu jeûnes, entre dans ta... Lorsque vous jeûnez, prenez pas un air triste pour essayer de faire style on est spirituel. Je paraphrase. La Bible le présente comme quelque chose de logique, c'est du bon sens, c'est une évidence. Alors, je dis qu'il ne faut pas s'attacher ni à la forme, ni à la durée, parce que la Bible nous montre une multitude de façons de jeûner. Il y a des formes de jeûne différentes et des durées différentes. Le jeûne, ça commence avec un repas. Et le jeûne peut faire une journée, 3 jours, 10 jours, 21 jours, 40 jours. 40 jours, c'est à proscrire. On verra ensuite les cas qu'il faut laisser dans leur contexte particulier. Mais la Bible me montre toutes sortes de formes de jeûne, toutes sortes de durées. Et elle me présente en réalité une multitude de combinaisons différentes. Et je vois des multitudes de combinaisons de jeûnes, mais jamais à un moment, un prophète, ni Jésus, ni un apôtre, me dire « jeûne comme ça, jeûne tant de temps, il faut que tu imites un tel, il faut que tu reproduises l'exemple de machin ». Il n'y a pas ça dans la Bible, pas du tout. Il y a une multitude de combinaisons différentes, mais elle ne me dit jamais comment jeûner. Il y a énormément de domaines de ma vie spirituelle, terrestre, relationnelle, où je trouve des impératifs dans la parole de Dieu. Mais sur le jeûne, sur la pratique du jeûne, aucun. Pourquoi j'insiste sur tous ces points? Parce qu'on va démystifier un peu la chose et on va enlever la notion de légalisme. Il n'y a pas de « il faut, il ne faut pas ». Il n'y a pas de « j'ai le droit » ou « j'ai pas le droit ». Je vous donne un exemple. Il y a de cela bien longtemps, on était encore dans notre église à Paris avec Anne, j'étais encore même pas dans le ministère, mais on était déjà en responsabilité dans l'église. Et puis l'équipe pastorale dit à tous les responsables, les leaders, les secteurs d'activité, « on va prier, on va jeûner, samedi on prend la journée, on se met devant Dieu, blablabla. » Ok, ça tombait bien, je travaillais pas. Anne, elle dit « on est motivé, on y va chérie, on va jeûner ». Âme, on est plein de feu, on y va. Mais moi, dans mon cœur, j'ai cette espèce de petit sentiment de mérite légaliste, un léger sentiment de supériorité, parce que je vais jeûner. Et alors que je revois, on arrive quasiment à la place de la nation en voiture, je vois ma femme, alors que je conduis, Anne, elle ouvre une barre de céréales et elle mange sa barre de céréales à midi moins 5, avant d'aller au jeûne et prière. Et là, le petit pharisien qui sommeillait en moi Méfiez-vous, on a tous un petit pharisien qui sommeille en nous. Depuis le temps que je l'ai étranglé, je lui ai coupé la tête, rassurez-vous. Mais le petit pharisien qui sommeillait en moi à l'époque a attrapé ma femme bien comme il faut. « Oui, tu te rends pas compte, on va jeûner, et ça y est, t'es même pas capable de faire un repas, de passer, de sauter un repas sans manger ta barre de céréales. Comment tu crois que l'Église, elle va avancer avec des gens comme toi? Si t'es pas fichu de jeûner un repas, écoute, c'est pas comme ça qu'on va aller plus loin dans la vie avec Dieu. Bla, 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 bla. » Et ma femme, au feu rouge, blam, je lui mets le compte. Et elle se met à pleurer. Elle se sent envahie d'un sentiment de culpabilité, en se disant « Oh purée, j'ai même pas été capable de jeûner un repas, c'est pas possible, c'est nul, oh, c'est honteux, Seigneur, je suis pas une bonne chrétienne, les autres ils vont jeûner, moi j'ai mangé une barre de céréales. » Mes frères et sœurs, ce jour-là, j'aurais mieux fait de m'humilier et de faire ce que la Bible dit quand elle dit « Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et ce jour-là, j'aurais mieux fait d'aller manger un bon steak et de me conduire avec mon épouse, avec sagesse. Et comme dit Pierre, comportez-vous avec sagesse avec vos épouses, parce que ça, c'est un impératif, le jeûne n'en était pas, hein, et honorez vos épouses. Et bien là, j'aurais certainement beaucoup plu à Dieu, je lui aurais été beaucoup plus agréable en honorant mon épouse, plutôt qu'en allant jeûner, puis en lui mettant le compte dans la voiture. Vous comprenez ? Un autre exemple, parce qu'il faut vraiment sortir de nos esprits la notion de « il faut pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit », le légalisme, « je suis mieux, je suis moins bien, il a jeûné, il est mieux que moi, j'ai pas jeûné, je suis moins bien, je suis mieux, qu'est-ce que le Seigneur pense de moi ?» Tout ça, il faut le virer. Une autre fois, j'étais pasteur cette fois-ci. J'avais quand même étranglé le petit pharisien qui sommeillait en moi, j'avais bien étouffé. Mais je n'avais pas encore étouffé l'esprit de culpabilité. Parce que quand on jeûne, frères et sœurs, c'est comme tout le reste dans la Bible, on le fait dans l'esprit de la grâce. D'accord ? Et puis, des pasteurs organisent un petit séminaire de jeûne et prière de 3 jours pour la mission Nord, là, comme on faisait toujours à Parigné-l'Évêque. J'arrive, le lundi soir, je commence à jeûner, le mardi matin, je jeûne, le mardi midi, je jeûne, et là, dans l'après-midi du mardi, je commence à avoir des maux de tête, mais des maux de tête qui montent et qui montent. Je commence à taper en migraine, je commence à être dans un état d'affaiblissement extrême, je me sens limite, je me sens pas bien. Puis même spirituellement, j'arrive pas à rentrer dans le truc, je vois bien que je suis pas connecté, ça va pas, etc. Et là, je craque et je vais manger. Et je me sens envahi d'un sentiment de culpabilité sur 500 pasteurs en France, le pire de tous. Et comme j'étais tellement envahi par la culpabilité, j'ai pris ma voiture et je suis allé le plus loin possible. J'ai roulé 10 km pour être sûr que je n'allais pas tomber sur un frère qui passait par là, on ne sait jamais, et qui me voyait en train de manger mon quick. Et à 10 km, le mardi soir, au bout de 24 heures de jeûne, j'ai rompu mon jeûne, je suis allé au quick et j'ai mangé mon quick, etc. Puis je regardais pour être sûr que personne ne me voit. Le légalisme, la culpabilité, c'est pas parce que j'ai rompu mon jeûne, déjà j'étais pas obligé de jeûner. C'est pas parce que je me suis dit, tiens, je veux jeûner 3 jours, mais que je craque au bout de 24 heures que forcément je deviens le pire des chrétiens. D'accord ? Vous n'avez pas l'air sûr, hein ? On ne s'attache pas à la forme du jeûne et on ne s'attache pas à la durée du jeûne. Frères et sœurs, la quantité de jeûne, la quantité ne détermine pas la qualité de mon jeûne. C'est mon attitude de cœur. Il y a des gens en une journée, en un repas, en 2 jours, en 3 jours, avec une attitude de cœur vraiment de recherche de Dieu, ils ont investi un potentiel extraordinaire dans le royaume de Dieu, plus que certains qui ont fait des exploits, entre guillemets, quand ils ont jeûné 10, 15 ou 20 jours. La disposition de cœur, l'esprit de la grâce. Je suis sauvé par grâce. Jésus m'aimait alors que j'étais dans le péché, il m'aimait déjà au maximum. en mourant sur la croix pour moi, alors que j'étais encore dans mes péchés, Christ est mort pour moi, démontrant le summum de son amour. » Vous croyez quand même pas que parce que vous jeûnez 3 jours, il va être impressionné. Il peut pas m'aimer plus. Donc, je vais pratiquer le jeûne dans l'esprit de la grâce et dans cet esprit de relation d'amour, on va le voir. Je vais pratiquer le jeûne par faim et soif de Dieu. Que tu jeûnes un repas, 2 repas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus ou moins, je ne sais. Si tu l'as fait par amour, par faim et soif de Dieu, de t'offrir beaucoup plus à lui, de te consacrer entièrement à lui, de quitter la table humaine pour te mettre à table avec lui comme jamais tu l'avais fait, ben, tu le fais un repas pour commencer, ben, c'est déjà très bien. C'est important parce que la Bible ne donne pas d'indication et elle ne me dit pas de m'attacher à des formes ou de reproduire certains types de jeûnes. Il y a tout un ensemble de combinaisons. Parfois, vous avez des jeûnes, moi j'appelle ça le jeûne total. Il ne faut pas le pratiquer, je vous l'interdis, je vais vous en parler. Le jeûne total. Vous avez des exemples de jeûnes partiels. Daniel, chapitre 1er. Mets à l'épreuve tes serviteurs, donne-nous que des légumes pendant 10 jours, on ne veut pas manger à la table du roi les viandes sacrifiées aux idoles. C'est une forme de jeûne, c'est un jeûne partiel. Daniel chapitre 9-10, il jeûne pendant 21 jours, il est dans le combat spirituel. Et il dit pendant ces 3 semaines, je n'ai rien fait rentrer de précieux dans ma bouche. Il a mangé quoi? Des légumes, du pain, de l'eau, c'est un jeûne partiel. Et puis vous avez aussi ce qu'on peut appeler, moi j'appelle ça le jeûne liquide. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous ne mangez pas pendant 1 repas, 2 repas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais vous buvez, je vais vous le montrer, il faut beaucoup, beaucoup s'hydrater. Donc il y a tellement de combinaisons de jeûnes possibles et de durées possibles que je vois que la Bible ne me dit pas à un moment ou à un autre, fais comme ci, fais pas comme ça, etc. Nous ne sommes pas là pour accomplir une performance. Parce que le premier qui va venir se mêler à notre temps de jeûne et de prière, c'est l'orgueil spirituel. C'est pour ça que j'insiste en commençant, il faut virer, excusez-moi, il faut enlever, arracher toutes ces notions-là. Nous ne sommes pas là pour une course à la performance. Fixons-nous, fixez-vous, des objectifs réalistes. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné de sa vie et qui veut commencer dans la condition biblique, ben commence par jeûner un repas, fais-le bien, voilà. Ensuite, tu apprendras à jeûner une journée complète. Après, tu pourras apprendre ce que c'est qu'un jeûne de 3 jours. Il y a vraiment des conditions à respecter, on parle de conditions pratiques juste après. Mais il faut premièrement bannir tout ce qui est légalisme, notion de mérite, autosuffisance, autosatisfaction, orgueil spirituel et surtout, toujours rester dans l'esprit de la grâce et de la relation d'amour à Dieu. D'accord ? Quand vous mettez à table avec des amis, j'espère que vous n'y avez pas été parce que vous vous sentiez forcé. Normalement, vos amis vous invitent, vous êtes heureux d'y aller. Vous y allez parce que vous les aimez, parce que vous voulez être plus en communion avec eux autour de cette table et de pouvoir partager ensemble. C'est une relation d'amour. Je manifeste vraiment un intérêt particulier aux gens qui sont là devant moi. Le jeûne, c'est ça. Je quitte la table humaine par faim et soif de Dieu et je vais davantage me consacrer à lui, à la recherche de sa présence, et puis être là dans cette relation d'amour, pour être dans cette intimité, cette communion avec lui. C'est ça le jeûne, c'est très simple. Et je le fais parce que je l'aime, et je le fais parce qu'il m'aime. Et si tu restes 4 heures à table avec lui, ou 1 heure, il t'aime pareil. Tu n'auras pas la même quantité de nourriture, c'est sûr, mais il t'aime pareil. Est-ce que c'est clair sur ce point ? Ok. Alors, on fait une première lecture ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 7, verset 5. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, c'est-à-dire aussi à ses responsables, quand vous avez jeûné et pleuré, au 5e mois et au 7e mois, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans. Et Dieu va tout résumer en une seule phrase, en une seule question. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et là, chacun se retrouve le cœur mis à nu devant Dieu, obligé de sonder son propre cœur et de considérer ses véritables mobiles, ses motivations, son état d'esprit, son état de cœur. Dieu ne dit pas « il ne fallait pas jeûner ». Dieu dit « vous avez mal jeûné ». Vous n'avez pas jeûné pour moi. Vous n'avez pas jeûné par amour pour moi. Est-ce pour moi que vous avez jeûné ? J'aimerais aussi préciser toutes les raisons pour lesquelles nous ne devons pas jeûner. Là, j'ai mis « pourquoi je ne jeûne pas ?» D'accord, hein ? Là, « je ne jeûne pas ». Je ne jeûne pas pour obtenir ce que je n'ai pas eu dans la prière. J'ai souvent entendu dire « oh, ça fait un moment qu'on prie, on n'a pas été exaucé, on va jeûner !» Oui, on attend encore les résultats derrière. Le jeûne n'est pas le gris-gris, le coup de baguette magique ultime de dernière minute qui va permettre d'arranger ce que je n'ai pas eu dans la prière. Le jeûne, ce n'est pas le dernier recours. Non, le jeûne, c'est une pratique, une discipline régulière avec Dieu. Je ne jeûne pas pour faire vibrer la corde sensible. Je ne jeûne pas pour faire le malheureux. Ah, tu vois, Seigneur, je jeûne, et puis je ça, et puis c'est... Je ne jeûne pas pour faire vibrer la corde sensible. Non, on ne peut pas faire fléchir Dieu, ça ne marche pas. Je ne peux pas faire fléchir Dieu, parce que Dieu est amour, il n'est pas sentimental. Ne nous trompons pas. Dieu est amour, d'un amour saint, parfait, juste, puissant, compassion, sacrificiel, tout ce qu'on peut dire sur l'amour de Dieu, mais Dieu n'est pas sentimental. Et nous, humains, nous le sommes. C'est pour ça que parfois nous n'arrivons pas à dire non. Mais Dieu, lui, par amour, il dit non. Et ce n'est pas parce que tu vas jeûner que je vais te dire oui. Parce que sinon, ça s'appelle la grève de la faim. Je fais la grève de la faim. Le Seigneur, voyant que je me mets en danger, en péril, étant attendri et tellement triste de me voir, le pauvre petit, il est en train de jeûner et il va m'exaucer. On ne manipule pas Dieu. Il est amour, pas sentimentaliste, il n'est pas dans l'affect. Je ne jeûne pas pour gagner, pour marquer des points. Parce que ça nous ramènerait à une espèce de notion de mérite. On ne marque pas des points dans le ciel. Le Seigneur ne comptabilise pas ça. Okay ? Non, je ne jeûne pas pour que Dieu accomplisse ma volonté. Le jeûne, c'est comme dans l'état d'esprit de la prière, je prie, je jeûne, dans cet esprit de consécration, je vais m'offrir à Dieu, je vais m'offrir à lui d'une façon sans précédent pour pouvoir être complètement, totalement à lui, beaucoup plus à l'écoute de sa voix, de sa personne, de sa volonté, de ses désirs, de son cœur, de ses projets. Je ne cherche pas Dieu pour moi. Je cherche Dieu pour Dieu. Je cherche Dieu pour lui. Je ne jeûne pas pour obtenir une partie de Dieu qui m'arrange, genre la guérison divine ou autre, on va en parler. Non, non, je jeûne pour lui. Je jeûne par faim et soif de lui. Je jeûne parce que je l'aime lui. Je jeûne parce que je veux l'entendre lui. Je jeûne parce que je veux faire sa volonté à lui, etc., etc. Je ne jeûne pas pour que Dieu accomplisse ma volonté. Ça, c'est à proscrire aussi. Ça a l'air simple, hein, ce que je dis comme ça. Je sais que c'est simple, hein. Mais combien de choses simples comme ça gangrènent l'état d'esprit, l'état de cœur des chrétiens et rendent les jeûnes complètement inefficaces? Il reste souverain. Dieu est souverain. Et ce n'est pas mon jeûne qui va changer quoi que ce soit à la souveraineté de Dieu, ou à ses plans, ou à ses projets. Le but de la vie avec Dieu, de la prière, du jeûne, etc., c'est d'entrer dans les dimensions de Dieu. C'est d'entrer dans ses plans et dans ses projets, et pas de l'amener à accomplir mon plan ou mon projet. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué dans l'Écriture, et je voudrais absolument le partager avec vous, si vous voulez bien ouvrir avec moi le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12 et au verset 16. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 16. Ça concerne le roi David après son péché avec Bathsheba. Et on sait que suite à cet adultère, Bathsheba est tombée enceinte et elle a accouché d'un enfant. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. D'accord ? On est bien dans le contexte du jeûne et de la prière. David pria Dieu pour l'enfant et il jeûna. Et quand il rentra, il passa toute la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Là, certains esprits légalistes tordus vont dire « Oui, ben c'est parce qu'il avait péché. C'est Dieu qui lui a mis le compte, c'est Dieu qui l'a puni. Dieu a réglé ce qu'il avait à régler avec David. » Non, c'est faux. Puisque le psaume 103, écrit par ce même David, ce même auteur inspiré, dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Il y a des cas particuliers qu'il faut laisser dans leur contexte particulier. Et je connais, d'une façon très proche de moi, je ne dirai rien, mais dans un cercle très proche de moi, je connais une jeune fille aujourd'hui qui est en plein état de santé et qui est le fruit d'un adultère. Non, Dieu ne règle pas ses comptes avec nous. Non, Dieu n'a pas repris cet enfant pour faire payer à David quoi que ce soit. Ce serait contraire à son cœur, contraire à sa parole et contraire à des tas d'exemples que je connais, que vous connaissez. Vous pouvez vous dire, ah oui, je connais un tel, oui, je connais un tel. Ah ben oui, l'enfant, il est toujours là, on le connaît, il n'est pas mort. Il y a des cas particuliers qu'il faut laisser dans leur contexte particulier. Dieu reste souverain. Et ça, il faut que je me le brande là, excusez-moi, dans ma tête, dans mon cœur. Même si je jeûne, Dieu reste souverain, malgré mon jeûne. D'accord ? Et c'est extrêmement important de considérer ça. Alors d'autres diront, mais pourquoi il a pris cet enfant ? Et je connais des pasteurs, des frères, des sœurs dans la foi qui étaient en pleine sanctification, qui avaient un couple très bien qui marchait. Excusez-moi, leur enfant est parti, le Seigneur a pris cet enfant, Dieu est souverain et s'il doit prendre quelqu'un, il le prend. Et on ne peut pas rentrer des notions de mérite, de sanctification, de ce, sinon on ne s'en sort plus et on retombe avec un père fouettard qui va tout régler à coup de mort sur nos péchés passés, etc. On ne s'en sort plus. Non, non, on va simplement se souvenir qu'on ne fait jamais fléchir Dieu et qu'il reste souverain, malgré notre jeûne. Ok ? Et puisqu'on parlait de ça, eh ben, j'enchaîne directement avec un de mes points favoris. Ah, celui-là, je l'aime. On ne jeûne pas pour que les malades soient guéris. Non, 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 non. Le jeûne, c'est pas le gris-gris de dernière minute pour guérir tout le monde. Mais il n'y a, je le redis, aucun texte qui me dise que le jeûne serve à la guérison des malades. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de guérison. Parce que je m'intéresse, oui, je m'intéresse à Dieu. Je cherche Dieu. Je le cherche lui. Mais quand je l'ai trouvé lui, quand j'ai une plus grande dimension de sa présence, quand dans l'Église, on a une plus grande dimension de la présence de Dieu, partout où il y a la présence de Dieu, il se passe des tas de choses, y compris des guérisons. Mais dans ce cas, ça fait partie du tout le reste. Chercher premièrement le royaume et la justice et tout le reste. Ça fait partie de « ton père te le rendra » Matthieu 6. Ok ? Mais je n'ai pas jeûné pour ça. J'ai trouvé Dieu et en ayant trouvé Dieu, j'ai tout trouvé. Tout le reste. Vous comprenez la logique ? Je ne cherche pas des miettes, je cherche le gâteau. Et quand j'ai trouvé le gâteau, j'ai toutes les miettes qui vont avec. J'ai toutes les répercussions. Ok ? Un jour, dans une autre église, un frère bien intentionné, plutôt mal intentionné, vient me voir, puis il me dit « Ah, Stéphane, il y a le frère Intel, il est malade depuis longtemps. » Je dis « Oui, je sais, ça fait quand même un moment que je suis là, je sais qu'il est malade depuis longtemps. Ça fait un moment qu'on prie pour lui. » Je dis « Oui, je sais, j'entends prier pour lui tous les mardis depuis que je suis ici. Il se passe toujours rien. Nous, on a vraiment à cœur avec quelques-uns de l'église. Est-ce que tu nous donnes l'autorisation ? On aimerait venir tous les midis. » Puis là, il commence. On aimerait venir tous les midis. Et nous allons nous tenir devant la face de Dieu afin qu'il intervienne en faveur de ce frère et qu'il soit guéri. Parce qu'on le croit, on a la foi. Il n'y a pas de raison que... J'ai pris le frère sur son propre terrain. Parce que si je lui avais dit non, il ne faut pas jeûner. Et que le frère, il meurt. Je suis le méchant pasteur incrédule et pas spirituel. Je lui dis « Ok frère, allez-y, vous avez mon feu vert. Jeûnez autant que vous voulez, avec autant de gens que vous voulez, jeûnez. Je vous donne la clé de l'église, c'est ouvert tous les midis. Allez-y, jeûnez. » Puis moi-même je me disais « Puisque vous êtes si spirituel, montrez-moi ce que je ne sais pas faire. Allez-y. » Parce qu'il y avait un fort sentiment de supériorité. Ça a duré une semaine, deux semaines, trois semaines, tous les midis. Au bout d'un moment, ils étaient tous, ils arrivaient au culte de dimanche, ils étaient comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé après ? Ben le frère, ben on l'a enterré. On l'a enterré parce qu'on ne jeûne pas pour que les malades soient guéris. Pardon, je sais que c'est compliqué à comprendre, je suis un petit peu dur, mais il y a même des pasteurs qui n'ont pas intégré ça. Il n'y a, sur les 58 textes dans l'Écriture qui nous parlent du jeûne et de la prière, il n'y a aucun texte qui fasse le lien direct entre le jeûne et la guérison des malades. Cherchons Dieu. Est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Dit le Seigneur. Pourquoi est-ce que je jeûne ? Le jeûne, c'est une abstention volontaire de nourriture à des fins spirituelles. Je jeûne parce que j'ai faim et soif de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais par passion, par faim et soif de Dieu, je vais quitter la table humaine, je vais renoncer à des choses, oui, légitimes, pleinement légitimes, pour quelque chose qui est encore bien plus légitime et bien plus important, je quitte la table humaine et je vais me mettre à table avec Dieu. C'est ça l'esprit du jeûne. Mets-toi à table avec Dieu. Le jeûne, c'est prendre le temps de se nourrir de Dieu. Je pourrais dire de nous orienter, de communier plus avec Dieu. Alors, je ne dis pas que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Je ne dis pas que nous ne nous sommes jamais nourris de Dieu. On est bien d'accord. J'ai ma communion avec Dieu. Je tourne régulièrement mon cœur et ma face vers lui. Je m'oriente vers lui. Oui, c'est bien, mais il y a des moments, je vais passer la vitesse supérieure, je vais aller beaucoup plus loin. Je ne dis pas que je ne suis pas consacré, que je ne suis pas offert à Dieu, mais il y a un moment, il y a cette soif, il y a cette faim dans mon cœur, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et je ne l'ai pas fait parce qu'il faut. Je l'ai fait parce que j'étais tellement passionné par ce qu'il y avait devant moi. Volontairement, j'ai renoncé à ça. Et je dis, Seigneur, je vais m'investir avec toi, pour toi, en toi, dans cette recherche, comme jamais je l'ai fait. Ça, c'est l'état d'esprit du jeûne. C'est le jeûne qui est agréable à Dieu. On verra d'autres aspects aussi demain. Le jeûne va me donner une force spirituelle. Quand vous mangez, vous avez, par la suite, pas à l'instant. Sur l'instant, quand vous mangez, vous êtes fatigué. Parce que votre corps est obligé de puiser de l'énergie pour digérer les aliments que vous venez d'ingurgiter et ensuite les traiter, les répartir, le transformer en force, en énergie. Vous mangez, vous avez un petit coup à vide qu'on appelle la sieste. Et ensuite, l'énergie est là et l'énergie est libérée dans votre corps pour répondre à tous les besoins de votre corps. Quand vous jeûnez, c'est exactement pareil, mais sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous acceptez d'être un peu plus faible sur le plan humain, mais là, quand vous jeûnez, vous êtes en train de vous nourrir de Dieu. et physiquement c'est dur. Oui, certes, il y a quand même dans le jeûne ces petits coups à vide, ces moments de pression. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais à quoi ça sert? Mais en quoi le fait que mon ventre soit vide, ça va me donner ceci, ça? Et l'ennemi est là, il tourne. Alors, il y a ce petit coup, dans tous les moments de jeûne, on a ces petits coups de vide, ces petits coups de barre, ces petits coups de mou, les petits coups à vide comme ça. Je me nourris de Dieu, ah, je me sens un petit peu plus faiblard, mais par la suite, il y a une rémunération au jeûne. La nourriture spirituelle que j'ai ingurgitée, elle va se transformer en énergie, en force, en puissance. Il va y avoir une puissance multipliée, il va y avoir des forces multipliées et je vais être beaucoup plus fort spirituellement. Et je suis dans un paradoxe, il a fallu que j'accepte d'être un peu plus faible physiquement pour être plus fort spirituellement. Alors je vous ai mis un peu tout ça, oublier notre appétit naturel pour développer notre appétit spirituel. Vous savez, le jeûne, la vie avec Dieu, la prière, c'est comme la nourriture. Vous savez, ces moments où vous êtes là, où vous avez des fois attrapé vos enfants, vous leur avez dit, viens à table. Ah mais vraiment, j'ai pas faim. Viens à table, chérie. Ah non, mais vraiment, j'ai pas faim, je veux pas manger, j'ai pas envie. Et on a dit, l'appétit vient en mangeant. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. La première fois qu'on se dit, bon allez, je vais m'y mettre, je vais vraiment chercher Dieu. Seigneur, je me tiens devant toi et je jeûne. Ah, j'ai pas envie. Ah, faut être honnête, j'ai pas envie. Il y a un truc qui se passe en moi. Ah, j'ai une espèce de révulsion, pour pas dire une aversion, et toutes sortes de pensées, et plein d'excuses qui arrivent d'un coup, d'un seul, et je me trouve encore plein de choses à faire, tout pour pas passer à table avec Dieu, tout pour ne pas jeûner. Parce que ma nature charnelle, mon corps, le roi estomac, ce dictateur qui veut toujours que je vive pour mes sens, pour ma gratification, pour ma satisfaction humaine, corporelle, immédiate, pour le corps qui est un dieu, etc. Tout cela, il voudrait absolument que ça reste sur le trône. Et quand je dis « non, je vais jeûner », le roi estomac se sent menacé. Il se passe des choses spirituellement, la chair va perdre le contrôle, la nature humaine va être détrônée, Dieu va commencer à reprendre le contrôle de l'âme et du corps, et je remets mon corps et mon âme sous le contrôle total et absolu de l'esprit. Et je sors des bienfaits extraordinaires, mais mon corps, pour lui, ça sent la mort. Il se dit, ah, je vais perdre le contrôle. Mais c'est en mangeant que l'appétit vient, et quand je commence vraiment à me nourrir de Dieu dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne, quand je commence à rentrer dans la dimension de la vie de l'esprit, les premières fois où il a fallu parler en langue, c'était oh là là là, c'était terrible faire parler en langue. Et ensuite, quand on rentre dans ces dimensions, après il y a quelque chose de naturel qui vient, il y a même une soif qui vient, il y a un désir, il y a une envie, il y a un appétit spirituel qui va se créer. On oublie notre appétit naturel pour développer notre appétit spirituel. Je renonce à ma nourriture pour m'approprier la sienne. Vous retrouverez tout ça sur le site internet. J'ai mis toutes sortes de réflexions. Accepter d'être plus faible physiquement pour un temps, afin d'être plus fort spirituellement bien plus longtemps. Être davantage à son écoute, on l'a dit aussi tout à l'heure, parce que c'est réellement d'être dans cette communion, dans cette intimité avec lui, où en étant plus proche de lui, je vais pouvoir davantage l'entendre. Je vais pouvoir davantage l'écouter. C'est aussi ce temps de jeûne, un moment propice pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Je développerai ça aussi un petit peu plus tard. Avant de terminer, on va voir rapidement ensemble, on est vraiment dans le pratique, on débroussaille, on défriche ce soir. On va faire des parties très pratiques maintenant. Je vous présente là sur cette diapo les exemples de jeûnes bibliques qu'il ne faut pas reproduire. J'ai été clair, il n'y a aucun texte qui me dise « tu vas jeûner comme ça, tu vas jeûner tant de temps, etc. etc. » Parmi tous les jeûnes que l'on trouve dans la parole de Dieu, il y a quelques jeûnes qui sont particuliers. J'ai mis tout de suite, je vous le lis, c'est la conclusion de ce point. Il y a des cas particuliers qu'il faut laisser dans leur contexte particulier. Il n'y a rien dans l'Écriture qui me dit de chercher à reproduire de tels jeûnes. Il n'y a rien qui me dise de le faire. Nous ne sommes pas là pour accomplir une performance, je rappelle, attention à l'orgueil spirituel. Dans ces exemples-là, Moïse, Élie, Jésus. J'ai regroupé ces trois exemples parce que ce sont trois hommes qui ont été amenés dans des conditions très spécifiques à jeûner pendant 40 jours. Moïse, je lis rapidement pour vous, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il était sur la montagne. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Pas de pain, pas d'eau. Il n'a rien bu pendant 40 jours. Le corps médical vous dit, si vous restez 3 jours sans boire, c'est la mort. Monsieur Denisou nous disait dimanche, suite à une pseudo-prophétie, une femme a cru que parce qu'elle allait jeûner 3 jours avec son enfant, ça irait mieux. Au bout de 3 jours, la femme et l'enfant étaient morts. Au bout de 3 jours sans hydratation, c'est la mort. Ça signifie qu'ici, pour tenir 40 jours sans liquide, il y avait nécessairement une conduite particulière de l'Esprit de Dieu, il y avait nécessairement une action aussi spéciale de l'Esprit de Dieu, certainement dans le corps de Moïse. Comment Dieu a-t-il fait? Je ne sais pas, il est Dieu, il est merveilleux, il a tout pouvoir sur nos corps, mais il y a manifestement ici quelque chose de médicalement qui est totalement impossible. Et par conséquent, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui a attiré Moïse sur la montagne pour cet événement exceptionnel. C'était un événement exceptionnel. Élie, dans son épisode de déprime, 1 Roi 19, il nous est dit que Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je ne sais pas ce que le Seigneur lui a donné à manger. Cette fête du lion, du Snickers, du Mars, je ne sais pas. Il y avait des protéines à fond, je ne sais pas ce que le Seigneur lui a mis. Mais Élie, il a mangé ça et pendant 40 jours et 40 nuits. Ce sont des cas particuliers, frères et sœurs. Il faut bien comprendre que dans un cas particulier, c'est la nourriture donnée par Dieu lui-même qui a donné à Élie la force d'accomplir un exploit qui humainement est impossible. C'est le Saint-Esprit, Matthieu 4, Marc 1er, Luc 4, c'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce sont des jeûnes qu'il ne faut absolument pas tenter de reproduire. Nous ne sommes pas là pour accomplir des performances. En même temps, là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « T'inquiète pas, j'étais pas prêt d'essayer. » C'est certain que j'allais pas essayer. Il faut, vous m'excusez, frères et sœurs, hein, mais il faut tout dire, parce qu'on en a vu. On en a vu des gens qui ont essayé de faire ça, soit qui sont morts, soit qui ont eu des graves séquelles physiques, soit qui sont devenus dingos. Sur le psychisme, excusez-moi, ils ont vraiment pété un plomb. Et ils sont devenus dingos, excusez-moi l'expression. Ils ont viré mystique. Ils étaient irrécupérables. Les dégâts psychiques étaient irrécupérables. Non, non, c'est vraiment très sérieux. Et je sais, vous savez que ces messages, ils vont sur Internet. Okay ? C'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert pour cette confrontation exceptionnelle avec le diable. Deux autres exemples qu'il ne faut pas reproduire. Alors oui, dans le texte d'Esther et du peuple juif, il y a des enseignements à tirer. Mais je dis que c'est un jeûne qu'il ne faut pas tenter de reproduire. Esther dit à Mardoché, Esther 4, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, et c'est là qu'est vraiment l'enjeu, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, un jeûne total, absolu, pas de nourriture, pas une goutte d'eau. Moi aussi, je ferai de même, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Quel est le contexte ici? Le contexte d'Esther, c'est qu'il y a une menace de génocide, une menace d'extermination du peuple juif. Ce qui, face à une circonstance totalement exceptionnelle, a emmené, mais il y a une conduite de l'esprit qui a inspiré Esther pour ce fait exceptionnel, pour ce jeûne qui est exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel, ce n'est pas la durée. Parce que jeûner 3 jours, c'est carrément faisable, ce n'est pas un souci. Vous ne craignez absolument rien, vous ne risquez pas de mourir. Ce qui est exceptionnel et dangereux, c'est 3 jours sans avoir une seule goutte d'eau. Et c'est là qu'on se met vraiment en danger. Et c'est le cas, c'est exactement le cas que M. Denisou vous a rapporté dimanche matin. Contexte d'Esther, contexte particulier, un jeûne exceptionnel pour une circonstance exceptionnelle. Et encore une fois, rien dans la Bible ne me dit de reproduire ça. Ok ? Acte 9. Avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Acte 9. Il resta 3 jours sans voir, sans manger et sans boire. Il ne mangea ni ne but. Saul de Tarse s'est retrouvé exactement dans le même jeûne qu'Esther, mais il faut préciser que là encore, c'est un contexte exceptionnel. Il n'a pas jeûné de lui-même. Il ne s'est pas privé d'eau de lui-même pendant 3 jours. Il s'est, excusez-moi de le dire ainsi, c'est parce que le Seigneur l'a tellement fracassé qu'il en est devenu aveugle et qu'il est resté 3 jours sans voir, sans manger, sans boire. Parce que c'est le Seigneur qui s'est occupé de lui personnellement sur le chemin de Damas, au point qu'il est devenu aveugle. Donc c'est un jeûne exceptionnel qui a été la conséquence d'une rencontre exceptionnelle. Et dans tous les contextes que je vous cite ici, Moïse, Élie, Jésus, Esther, Saul de Tarse, ce sont des cas particuliers et rien ne me demande ou ne me dit que je puisse reproduire de tels jeûnes. Je vous l'ai dit, beaucoup ont essayé. Ils ont déraillé, ils sont devenus mystiques. Il y a eu des graves conséquences psychiques et malheureusement, c'était pas récupérable. Alors, ces jeûnes-là, non, je les déconseille, je ne les pratique pas, je ne chercherai jamais à les pratiquer moi-même. Je préfère prendre des périodes plus, comme je vous l'ai dit, des objectifs réalistes et puis avoir une pratique de jeûne et de prière dans l'état d'esprit de la grâce, dans la relation d'amour avec Dieu. Avoir des moments de jeûne réguliers, mais raisonnables, d'accord ? Des objectifs raisonnables qu'on puisse atteindre sans danger. Conseil pratique, demain on prendra du temps aussi pour commencer à mettre tout ça en pratique et à prier. Je termine simplement, il faut vraiment dégrossir au maximum ce soir. Pardon, je suis beaucoup plus dans l'étude, je suis beaucoup plus long, mais c'est volontaire, il faut que demain on puisse passer à autre chose. Les conseils pratiques, le jeûne, on ne le fait pas n'importe comment, même si on le fait par amour pour Dieu. Le Seigneur m'a donné une sagesse, une intelligence, en Occident, un excellent corps médical, de très bonnes connaissances, et je ne vais pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Le jeûne est réservé aux adultes en bonne santé. Non, on ne fait pas jeûner les enfants. Non, on ne fait pas jeûner les femmes enceintes. Hors de question. Les femmes enceintes ont besoin d'une alimentation régulière, équilibrée. Elles ont un enfant, elles ont la vie en elles. Non, on ne jeûne pas. Si une femme enceinte a des besoins particuliers, spirituels ou autres, le Seigneur le sait. Le jeûne n'a pas de puissance en lui-même, on l'a dit. Que la femme enceinte se tienne devant Dieu et puis qu'elle prie, qu'elle cherche la face de Dieu, qu'elle médite la parole, qu'elle aille plus loin, qu'elle se donne du temps, qu'elle aménage, qu'elle se donne du temps pour aller plus loin avec Dieu. Mais non, on ne fait pas jeûner les femmes enceintes. Le jeûne est interdit aux gens malades. Mais ce n'est pas logique pour tout le monde. Une fois, un jour, une chrétienne, elle était malade, de chez sérieusement malade, sous traitement médicamenteux. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Stéphane, est-ce que tu pourrais venir me voir ? Bon, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette question de maladie qui dure, qui traîne. » Ouais, ok, bien sûr, ma sœur, j'arrive, t'inquiète pas. » Et elle me sort le truc. « Est-ce que tu veux que je jeûne ?» Je lui dis « C'est hors de question. » Un, parce que c'est pas au pasteur de te dire de jeûner. C'est entre toi et Dieu. Et deuxièmement, non, Dieu lui-même ne te le demandera pas, je ne vais pas me mettre au-dessus de Dieu, parce que tu es malade, tu es donc déjà affaibli, tu es sous traitement médicamenteux, donc c'est hors de question, tu tu ne jeûnes pas, surtout qu'en plus, vous le savez maintenant, on ne jeûne pas pour que les malades soient guéris. Les gens qui ont besoin de toute leur capacité cérébrale, les gens qui ont besoin de leur faculté lorsqu'ils sont en période d'examen, les jeunes ou les moins jeunes, il y en a récemment, j'en vois ici, qui ont passé des examens récemment. Je ne parle pas d'examens médicaux, je parle d'examens de concours. Hein. Vous avez besoin de toutes vos facultés cérébrales pour passer des concours. Non, je ne jeûne pas dans une période où mon organisme a besoin de toutes ses facultés pour avoir les idées bien claires sur ce que je fais. Parce que dans le jeûne, il y a des choses humaines, physiques qui vont être amoindries et il va y avoir quelque chose, une sensibilité spirituelle qui va être aiguisée par le jeûne. Mais à ce moment-là, je n'ai pas besoin que ma sensibilité spirituelle soit aiguisée par le jeûne. Non, j'ai besoin de toutes mes facultés cérébrales et je n'ai pas besoin d'être perturbé parce que mon estomac a faim, que mon corps n'est pas content, etc. Non, on ne jeûne pas pour avoir ces examens. Il y a, dit la Bible, il y a un temps pour toute chose. Tu jeûneras quand tu auras accouché, tu jeûneras quand tu auras passé ton examen ou que tu ne l'as pas eu, ou peu importe, c'est égal, tu jeûneras plus tard. Il y a un temps pour toute chose. Je ne le mets pas dans l'interdit. Je dis simplement de rester vigilant sur tous les frères et sœurs qui sont âgés. Il y a ce texte de Luc, chapitre 2, qui nous montre que Anne avait 84 ans. Malgré ses 84 ans, il nous dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Les frères et sœurs âgés, aînés, peuvent jeûner. À condition d'être en forme suffisante, d'avoir suffisamment de santé physique afin de pouvoir supporter une période de jeûne. Il faut être d'autant plus vigilant que la vieillesse, pour vous mes frères et sœurs, la vieillesse est déjà une épreuve. La vieillesse est déjà en train de vous voler des forces physiques. La vieillesse vous vole des capacités. Par conséquent, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faudra être d'autant plus sage et puis d'autant plus réaliste sur les objectifs qu'on se fixe. Voilà, je pense que si on est âgé, on ne va pas partir sur une semaine, deux semaines de jeûne. Non, on ne joue pas à ça, c'est pas sage. Mais par contre, étant âgé, je peux très bien peut-être ponctuellement de temps en temps dire à Dieu, Seigneur, je mets vraiment ce repas, je le mets à part pour toi Seigneur. Si mes forces me le permettent, je vais dire, ah Seigneur, allez, je mets cette journée à part pour toi Seigneur. Mais voyez ce que je veux dire, les personnes âgées doit vraiment rester vigilante. Je termine avec les conseils pratiques. Quand on jeûne, il faut penser à boire beaucoup. Il faut absolument s'hydrater et boire même si on n'a pas le sentiment de soif. Il faut boire énormément, même si c'est un jeûne de courte durée. Vous jeûnez un repas, vous jeûnez une journée, même si c'est un repas, vous buvez énormément. Si vous aimez votre petit café, votre petit thé, faites-vous plaisir. Moi, personnellement, je préfère boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ça assure le bon fonctionnement des reins, l'élimination des toxines, etc. Il faut être très pratique, d'accord, dans le jeûne et dans la prière. Boire beaucoup, s'hydrater, même pour un jeûne de courte durée. Il faut avoir une activité réduite. Non, je ne vais pas retourner mon jardin pendant que je suis en train de jeûner. Il faut que mon activité professionnelle, mes loisirs, soient réduits dans ces moments-là, de façon à aménager, il faut que mon emploi du temps soit aménagé, de sorte que j'ai un peu plus de repos, moins d'efforts physiques, pas de gros travaux, pas mon jardinage, pas de sport, pas de randonnée, pas de machin. Non, si je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner pour me tenir devant Dieu, pas pour gagner une demi-heure pour aller ranger ma cave. Ça ne sert à rien du tout. Il faut être logique, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Donc une activité réduite, puisque je sais que mon corps, et je l'accepte, va être un peu plus affaibli pour un temps, je vais aménager tout cela de façon extrêmement logique pour éviter les incidents derrière. Et puis, dernier conseil pratique, ne pas rester enfermé, ne pas rester confiné entre ces quatre murs. Quand on jeûne, on va s'aérer un petit peu, on va prendre l'air, d'accord ? On va prendre l'air, on va faire une petite marche, pas une grosse rando, mais on va prendre l'air, on va s'aérer. Ça fait du bien, ok ? Il ne faut pas rester enfermé non plus, parce que c'est déjà assez dur comme ça. Il faut aussi aller prier un petit peu dans la nature et puis bénir Dieu pour sa création. Et ça fait énormément de bien. Le jeûne en conseil pratique. Ben, je m'excuse, si je suis là pour jeûner, pour chercher Dieu, je ne vais pas seulement jeûner de nourriture. Ce serait bien que j'apprenne aussi à jeûner de tous les chronophages. Pardon, j'aime beaucoup votre femme ou votre belle-mère ou votre maman ou vos enfants. Si votre belle-mère est une chronophage, non, vous ne passez pas 2 heures au téléphone avec elle, elle va vous casser le moral. J'aménage mon temps pour être vraiment focalisé sur Dieu. Tout ce qui va me décourager, me détourner l'attention de Dieu, toutes ces choses, vous savez, qui sont censées me détendre, mais qui en réalité m'accaparent, ma télévision, mon ordinateur, les informations, le portable, le téléphone, la belle-mère, les relations, les copains, les copines, les voisins qui arrivent à l'improviste, les machins, les trucs et tout. Non, je m'excuse, si je m'occupe pas de Dieu, j'ai fait un jeûne thérapeutique, ça ne sert plus à rien. Il y a aussi toutes ces choses saines, mais qui ne sont pas constructives. Vous avez peut-être des lectures habituelles qui sont saines. Vous avez peut-être des émissions qui sont saines, des activités qui sont saines, du shopping, une activité saine, le jardinage, la couture, ce que vous voulez. Si je jeûne, c'est pour me tenir devant Dieu. C'est pour vraiment être à communion, à son écoute. Et en réalité, tout ce qui va parasiter, j'appelle ça les voleurs, tout ce qui va détourner ce temps de jeûne et qui va me priver de ses bénéfices, de ses bienfaits, tous ces voleurs, je vais m'aménager des protections autour de mon emploi du temps, concrètement, de sorte que, oui, je ne sois pas obligé d'être sans arrêt déconnecté de Dieu. Je reste connecté à Dieu et je me méfie des voleurs, je me méfie des chronophages, je me méfie de tout ce qui va m'accaparer et me détourner de ce moment que je dois vivre avec Dieu. Et là, c'est vraiment la fin de la fin. Ben, quand je jeûne, non, je ne vais pas rester oisif. Dans le jeûne et la prière, il y a de la puissance. Si je jeûne et que je ne fais rien d'autre que jeûner, ben vous avez perdu 500 grammes et puis terminé, quoi. Hein. Vous avez fait un petit régime, vous avez fait un jeûne thérapeutique. Le jeûne, dans la pensée biblique, est toujours associé à la prière. C'est pour ça que je vous ai mis le jeûne et la prière. La recherche active de Dieu, l'étude de sa parole, avoir la méditation de sa parole, où vous pouvez prendre un bon livre et puis avoir une bonne lecture spirituelle, mais tout ce qui va vous édifier dans la foi et tout ce qui va vous tirer vers le haut. Si vous jeûnez ou quand vous jeûnerez ou quand on le fera ensemble, s'il vous plaît, ne restez pas oisifs. Voilà, on en a terminé pour ce soir.